sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il est Peul et c'est un prince de la littérature française et francophone. Mais je pourrais dire les choses autrement. Je pourrais dire, par exemple, le jour où le sol africain s'est dérobé sous ses pieds, la littérature s'est chargée de le reconstituer. Tierno Monemembo, franco-guinéen, prix Renaudot 2008 pour son 9e roman Le Roi de Kaël au Seuil, nous pose donc sur la table une drôle de biographie romancée sur Aimé Olivier de Sanderval, sorte de Don Quichotte qui en 1880 a le projet de conquérir à titre personnel le Fouta Diallon en Afrique de l'Ouest et d'y faire passer une ligne de chemin de fer.
Qu'allez-vous faire en Afrique, grand-père?
Je vais me tailler un royaume.
Roi d'Afrique?
Oui, oui, vous en avez la tête. Vous ne me mangerez pas au moins une fois devenu nègre, hein, grand-père? Vous m'avez l'air encore plus fade que prétentieux, mon petit jeune homme. Et pour tout vous dire, c'est justement pour stopper le cannibalisme que je me rends en Afrique.
Quoi? Vous allez tuer tous les cannibales?
Non, je vais les reconvertir. Je vais en faire des savants.
Bonjour Tierno Monemembo.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut trouver, une première question comme ça, des points communs entre cet Olivier Sanderval, donc précurseur de la colonisation en Afrique de l'Ouest, des points communs entre lui et vous?
De nombreux points communs. La folie, la démesure, le sens du rêve, le sens de l'utopie, le sens de la solitude, le sens du romanesque et du romantisme. Mais aussi, un autre point commun très important, c'est que c'est Olivier Sanderval, qui est français d'origine, deviendra Peul comme moi. Et moi aussi, je suis Peul et français en même temps.
C'est joli.
Oui, absolument.
Alors, vous êtes prêt à jouer le jeu des questions autour de cette double culture? Peut-être qu'il y en a plus que ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous définiriez comme double culture. Vous avez tout fait comme je vous ai demandé. Vous avez ramené de la musique.
Absolument.
Difficile, hein, trouver dans la discothèque de RFI.
Oui, c'est de la vieille musique.
Alors, vous avez, par exemple, voulu écouter ce Kouyaté Sorikandia, la superstar de la Guinée des Indépendances. Et vous avez choisi le morceau Conakry. Ça sent la maison, tout ça.
Oui, c'est Conakry, c'est la belle ville de Conakry. Et c'est une chanson qui évoque pour moi les premières heures de l'indépendance guinéenne. Dans les années 58-60, une chanson que l'on passait souvent dans les cinémas et à la radio guinéenne et qui disait tout le charme, toute la beauté et toute l'illusion que nous avions à cette époque-là pour notre pays. C'était vraiment un très beau pays à cette époque-là.
Le temps des indépendances est fini, Tierno Monemembo.
Très vite, c'est devenu un cauchemar, malheureusement.
Ouais, et vous avez toujours plaisir à réécouter cette chanson?
Oui, tout à fait. C'est une chanson qui me réconcilie un peu avec l'espoir, avec la beauté, avec le rêve.
voilà qui va réchauffer le cœur de nos auditeurs africains. Ça vous donne le sourire, hein, Tierno
Moon?
Bon, tout de suite, hein, vous êtes prêts à danser.
Je vois le technicien en train de danser au son de la musique.
Et c'est un musicien en plus, Marco. Conakry, donc, sur RFI avec Kouyaté Sorikandia. Je suis aujourd'hui en palabre avec Tierno Moon et Mumbo, prix Renaudot 2008 pour Le Roi de Kael, auteur franco-guinéen qui, très tôt, a porté des semelles de vent.
Quelle est la carte géographique de votre enfance?
Oh, c'est une large géographie. D'abord, les montagnes de mon enfance, celle du Fouta Diallo. Très vite...
Vous êtes né en 47, hein?
47, mm-hmm. Les plaines fluviales de Haute-Guinée, puisque j'ai grandi à Cancan, au bord du Milo. Ensuite, la forêt de Zérékoé. Ensuite, bien évidemment, la presqu'île de Dakar, puis la lagune d'Abidjan, les aramons du Beaujolais dans le Lyonnais.
C'est une vraie carte géographique
avec
vous.
Très vite,
hein.
Les mornes de Rio de Janeiro et de Salvador de Bahia, et beaucoup de choses. C'est ma géographie recouvre un peu la géographie du monde.
Alors, après avoir vécu de façon plus terre-à-terre la Guinée coloniale, vous vivez la Guinée de Sékou Touré, au grand dictateur.
Oui, malheureusement.
Qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait prendre une sacrée décision, ça, autour de 22 ans?
De partir de chez moi.
De fuir.
Comme beaucoup de mes compatriotes, j'avais 22 ans et j'ai marché. J'étais à pied au Sénégal. J'ai marché presque 150 km. Je me suis retrouvé à Dakar en 1969, où j'ai commencé des études. À l'université de Dakar, en pleine grève d'ailleurs, à cette époque-là.
Qu'est-ce que vous gardez d'abord comme image de la Guinée coloniale, Tierno Moon et Mumbo?
Alors, c'est une Guinée qui fut évidemment injuste, qui fut violente, mais pour nous les enfants c'était plutôt... Vous savez, le royaume de l'enfance, il est beau dans toutes les situations historiques. Si vous lisez les romans des Français qui ont passé leur enfance lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est les petits bonbons, c'est les uniformes des Allemands ou des Américains qui sont évoqués, et non pas la douleur et la violence du nazisme. C'est pareil, là, au temps colonial, j'étais petit, je me souviens de ces très belles vieilles chansons coloniales de cette époque-là, les chansons de Lynn Renault, les chansons de Luis Mariano, les chansons de Tino Rossi, qui font partie de la mémoire de mon enfance. Absolument, comme la musique de Fodeba Keïta ou de Sorikandia.
Vous avez 22 ans, 69, donc vous venez de le dire, vous décidez de fuir le pays. Une question naïve, vous êtes directement menacé pour en venir à cette décision?
Pas directement, c'est un contexte qui m'a fait sortir de mon pays. Vous savez que la dictature produit toujours des prisons et des exilés. Toutes les dictatures du monde. Et en Guinée, il y a eu près de 3 millions d'exilés.
L'un de vos personnages de roman, pardonnez-moi, je ne sais plus exactement lequel, comme ça de mémoire, dit « Entre la colonisation et l'indépendance, je ne saurais te dire laquelle est la pire ». C'est une phrase très forte.
J'ai l'impression qu'effectivement, c'est le dilemme au sens vrai du terme, c'est de Caribe dans Silla. On avait cru que nos libérateurs, en l'occurrence Sékou Touré, nous auraient enfin donné le paradis qu'ils promettaient. Finalement, c'était un enfer pire que celui de la colonisation.
Vous faites quoi en arrivant en France?
Je fais des études. Je continue des études que j'avais déjà commencé à Dakar, puis à Abidjan, et je fais donc des études de biochimie à Lyon, mais très vite, 2 ou 3 ans après, je commence à écrire un roman, qui est mon premier roman que j'ai commencé à écrire à Lyon en 1975.
Ah, ça c'est joli, c'est pour la vitrine ce que vous dites, mais vous n'en vivez pas tout de suite, vous faites quoi pour vivre?
Je balaye des supermarchés, je lave des carreaux, je suis gardien de nuit, je fais tous les petits boulots que les étudiants font en France pour survivre, bien évidemment.
Quand on vous demande, d'où êtes-vous? Que répondez-vous?
D'où est-ce que je suis? Je sais d'où je suis de Porédaka, c'est un petit village de Guinée. Mais depuis, les Porédaka se sont multipliés. Vous savez que lorsqu'on est en exil, on multiplie de jour en jour les lieux de naissance. Les berceaux ne sont plus un seul, mais plusieurs. Et aussi beaux et aussi semblables les uns que les autres. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement d'autres villes de Guinée qu'on a écrit, Cancan, Zérékoré, mais Dakar, Abidjan, Lyon, Salvador de Bahia, bien d'autres villes du monde font partie aujourd'hui de mon enfance et de mon patrimoine.
Mais la question est pernicieuse. D'où êtes-vous? Ça demande à ce que vous décliniez votre pédigré?
Oui.
Comment vous répondez? Il y a mille façons métaphoriques, poétiques.
La réponse sera aussi vaste que la question. D'où je suis de ce monde-là. Je suis de cette époque-là. Je suis de cette fin de la moitié du XXe siècle, de ce début du XXIe siècle. Je suis de cette époque de belles inventions technologiques, malheureusement souvent de grandes régressions humaines, où l'homme n'a pas aussi évolué que les techniques qu'il a inventées.
Donc citoyen du monde?
citoyenne du monde, absolument.
Ça méritera d'être creusé quand même, cette question, on y reviendra.
Bien sûr.
Alors, quand je vous ai demandé de faire votre programme, vous m'avez gentiment demandé deux titres de Grand Cahier, mais ça, c'est pas de jeu, tiens, nos monnaies, mon mot, c'est pas possible, ça, il faut de la démocratie, même en musique. Grand Cahier, la voix d'or de la musique d'Afrique noire, on va écouter quand même un titre. Alors, derrière sa musique, qu'est-ce que vous diriez? Qu'il y a une vraie conscience politique, par exemple?
Oui, c'est encore une fois, c'est une chanson qui va c'est une suite de Conakry de Kouyaté sur Kandia. Ce sont les chansons, les belles chansons de l'indépendance, enthousiastes, pleines d'optimisme, pleines de joie. C'est une chanson qui célèbre les indépendances africaines. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu pratiquement une chanson qui nous révèle à quel point ces indépendances tribales sont devenues du folklore. C'est-à-dire, c'est devenu l'indépendance tcha-tcha, malheureusement.
Indépendance tcha-tcha,
indépendance tcha-tcha de Grand Cahier, indépendance à laquelle vous croyiez quand vous étiez tout petit, tiens, nos monnaies même beaux. C'était synonyme de quoi, l'indépendance,
de
pour
rêve,
vous?
De rêve, de magie, de bonheur. Nous pensions que le cauchemar était terminé, que l'arbitraire, l'injustice, la misère, tout cela était fini. C'était le paradis.
Tiens, nos monnaies même beaux, l'invité dans Seul Majeur, prix Renaudot 2008 et Peul jusqu'au bout de la plume.
Quoi savez-vous de vos ancêtres?
Vos ancêtres, c'est un homonyme même beau.
Ils sont nombreux, puisque je suis justement d'origine Peul et que les Peuls traversent toute l'Afrique de l'Ouest, en glanant toutes sortes de sang, toutes sortes de génétiques, toutes sortes de cultures. Quand je dis que je suis Peul, cela veut dire aussi que je suis Serer, cela veut dire aussi que je suis Wolof, que je suis Mandeng, que je suis Songhai, que je suis Mossi et Hausa en même temps. Je suis sahélien, en fait. Et le Peul, c'est un sahélien.
Alors ça, c'est vraiment une définition presque de l'historien. Vous savez faire ça. Hein. On a 260 pages avec le roi de Kael qui peut se lire comme le grand livre des ancêtres peuls. Mais votre arbre, à vous, précisément, m'intéresse. On pourrait commencer par votre grand-mère.
Oui, Nenembo, que j'ai appelé Nenembo, que j'ai baptisé. C'est le premier personnage que j'ai inventé, finalement. C'est pas son nom, c'est moi qui l'ai appelé Nenembo. Nene qui veut dire maman dans ma langue. Et Mbo qui ne veut rien dire, c'est le langage d'enfant. J'ai appelé ma grand-mère Nenembo et tout le village a fini par l'appeler Nenembo. Et elle fit à la fois mon père et ma mère, elle fit tout pour moi. C'est vraiment la femme qui m'a éduqué, qui m'a formé, qui m'a forgé.
Et qui vous a donné votre nom de plume.
Mon nom de plume aussi. Qui m'a tout donné en fait.
Que veut dire Monet ?
Né, c'est la maman.
Ouais,
Mou, c'est un signe d'appartenance. Cela veut dire deux. Tierno, deux, Nenembo.
Donc figure haut en couleur, cette grand-mère ?
Oui, elle était très forte, très belle. C'était une très belle femme Peul qui avait un caractère très fort. Très marqué, qui m'a appris le stoïcisme, qui m'a appris à endurer, qui m'a appris aussi à avoir des principes, à survivre à beaucoup de choses. Je pense que si j'ai fait 40 ans d'exil sans trop me détériorer, c'est dû beaucoup au fait que ma grand-mère est toujours là à côté de moi et que chaque fois que je commence à tomber, elle me dit « relève-toi ».
Elle vous a transmis des proverbes, par exemple ?
Ah oui, beaucoup. On est dans les proverbes, on grandit dans les proverbes.
Papa et maman, ils ressemblent à quoi ? Ils ont l'air tout petits à côté de cette grand-mère.
Oui, parce que papa et maman sont trop jeunes. C'est que mon père, quand je suis né, avait 23 ans. Ma mère avait à peine 17 ans.
Oui.
Ce sont presque des copains. C'est des gens que je ne les ai pas vraiment considérés comme les parents. Parce qu'il y avait là leurs parents à eux. C'est-à-dire que ce sont vraiment mes grands-parents qui m'ont éduqué. Mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle.
Ils faisaient quoi, vos parents ?
Mon père, il travaillait dans la santé. C'était des gens qui avaient fait des études de santé au temps colonial, qu'on appelait, qui a fait Tripano à Bobo-Dioulasso pendant longtemps et ma mère ne faisait rien, c'était très souvent une femme de la maison. Quoi.
Donc mode de vie plutôt traditionnel ou à cheval
À cheval entre les deux, ma grand-mère c'est le côté traditionnel, crypto-traditionnel même, mon père c'était plutôt le côté moderne, mon père fut communiste très jeune. Il a milité, il a beaucoup milité dans le RDA de cette époque-là. Il était communiste, il y croyait. C'était un homme qui aimait beaucoup lire, qui a même écrit. Il a publié des nouvelles dans un journal suisse dans les années 50. Et c'était un homme très moderne.
Vous avez bien fait le fils de votre père. Hein. Vous avez eu une période maoïste.
Oui, moi aussi. En plus, c'est vrai qu'il m'a beaucoup, fait lire les Lumières du XVIIIe siècle, par exemple.
De quoi rêvaient vos ancêtres pour vous ?
De beaucoup de bonheur, évidemment. Mais le bonheur pour eux, c'est toujours vu sous un angle moral et esthétique. C'est-à-dire, le bonheur pour eux, c'est d'abord et avant tout la liberté et l'honneur. Je pense que ce sont les principes qui gouvernaient ma famille et ma société à cette époque-là.
Comment vivre en dictature ? Est-ce que vous avez un mot d'emploi ?
Comment vivre en dictature ? On ne vit pas sous une dictature, on survit sous une dictature. On essaie autant que possible de s'en échapper. Et c'est caractéristique de tous les... si vous regardez le XXe siècle, c'est un siècle dans lequel de très nombreux écrivains ont dû fuir des dictatures pour sauver des manuscrits et pourquoi pas sauver aussi leur propre personne.
Mais c'était déjà votre cas, à 22 ans, vous écriviez déjà ?
Je n'écrivais pas encore. Non, moi c'est l'exil qui a fait de moi vraiment un écrivain. Je suis sorti de Guinée pour échapper à l'étouffement, pour échapper peut-être aussi à la mort, pour échapper à l'obscurantisme, pour échapper à l'inculture.
Mais échapper à la mort parce que vous étiez contestataire par rapport au pouvoir ?
Tout le monde était plus ou moins contestataire de manière sournoise, de manière discrète, mais c'est surtout que le régime était devenu si répressif que plus personne ne pouvait échapper à ces prisons.
Donc des milices qui passaient, qui surveillaient.
Tout le temps. La Conakry n'était plus le pays, la Guinée d'ailleurs.
Quels étaient les interdits concrètement ?
Tout était interdit. Il était même interdit d'écrire. Sékou Touré était le seul homme en Guinée qui était autorisé à écrire.
Donc l'interdit, est-ce que vous diriez rapidement que cela aboutit à peut-être deux attitudes, l'autisme ou la transgression ?
La transgression est très vite venue. Mais la transgression commence par la fuite, partir à l'étranger. L'étranger est le premier fruit interdit sous ces dictatures-là, surtout les dictatures d'obédience communiste. L'étranger devient le fruit interdit. Donc on pense, on songe à l'étranger, on rêve à l'étranger, on y va dès que possible.
Tierno Monet-Membo, l'invité dans Seul Majeur aujourd'hui. On fait une petite pause, Tierno, et puis on se retrouve pour la deuxième partie juste après le journal.